Merci d'écouter RFI. Midi et demi en temps universel, il est 13h30 ici à Paris et c'est l'heure d'Afrique Midi. Bonjour Nicolas Sûr.
Bonjour Anne Cantner, bonjour à toutes et à tous. En République démocratique du Congo, une longue audition hier à l'auditorat militaire pour plusieurs cadres du PPRD, le parti de l'ancien président Kabila. Aubin Minaku, Emmanuel Ramazani Shadary et Ferdinand Cambéré sont ressortis libres dans la soirée. 7 ans après la dernière audience, le procès des assassins présumés du syndicaliste et opposant béninois Urbain Daniveau, porté disparu en 2010, a repris ce matin à Cotonou. 2 hommes sont dans le box des accusés pour cette affaire qui avait fait grand bruit. Il y a 5 ans, la planète se mettait à l'heure du Covid-19. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, déclarait que le virus était une pandémie. Comment l'Afrique a-t-elle fait face? Quel bilan tirer sur le continent 5 ans plus tard? Le professeur Yap Boumde, qui était chef de la réponse au Covid pour le Cameroun, est notre invité. En République démocratique du Congo, plusieurs cadres du PPRD, le parti de l'ancien président Joseph Kabila, ont été entendus hier pendant plusieurs heures à l'auditorat militaire supérieur de Kinshasa. Aubin Minaku, numéro 2 du PPRD, le secrétaire permanent Emmanuel Ramazani Shadary et son adjoint Ferdinand Cambéré ont été auditionnés séparément. Ils ont fini par ressortir libres dans la nuit. Pauline Azidi, vous êtes en direct de Kinshasa. Les autorités les soupçonnent de collusion avec les rebelles du M23 AFC, ce qu'ils ont démenti.
Oui, les 3 hommes sont arrivés ensemble hier matin à l'auditorat militaire et sont ressortis, vous le disiez, ensemble dans la soirée, après avoir été entendus séparément par un magistrat militaire en présence de l'auditeur supérieur. La convocation qui leur avait été remise n'évoquait pas de sujet particulier, mais la mention éclairait la justice. Alors, selon Ferdinand Cambéré, secrétaire permanent adjoint du parti, les questions ont surtout porté sur des déclarations tenues par le vice-président Aubin Minaku lors d'une réunion du PPRD qui a évoqué la fin des opérations clandestines. Les 3 cadres disent s'être expliqués sur ces propos qui, selon eux, ne sont pas liés au groupe armé M23 AFC. Nous sommes une opposition républicaine, affirme Ferdinand Cambéré, dans la reconquête du pouvoir, mais dans le respect de la Constitution et par les voies démocratiques, ajoute-t-il. Ils sont donc ressortis libres dans la soirée après avoir signé leur PV d'audition. Ils se sont opposés à la saisie de leur téléphone respectifs. Toujours selon la direction du PPRD, aucune infraction n'a été retenue contre ces cadres. Direction qui salue, je cite, le professionnalisme des magistrats lors de cette audition.
Pauline Azidi en direct de Kinshasa. Leur mandat accusé de soutenir le M23 envoie son ministre des Affaires étrangères en visite de travail à Bruxelles jusqu'à mercredi. Objectif, défendre la position de Kigali dans le conflit à l'est de la RDC devant des représentants de l'Union européenne qui tardent à prendre des sanctions, Lucie Mouillot.
2 rendez-vous principaux ont marqué jusqu'à présent la visite à Bruxelles du ministre rwandais des Affaires étrangères, Olivier Ndungirehe. Le premier avec la chef de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, qui déclare avoir réaffirmé que le M23 et le Rwanda doivent respecter l'intégrité territoriale de la RDC, cesser leurs avancées et se retirer des territoires occupés. Le second entretien s'est déroulé avec le commissaire de l'UE aux partenariats internationaux, Joseph Sikela. Le diplomate bruxellois appelle toutes les parties au dialogue politique avec l'ensemble des acteurs. Des rencontres au cours desquelles le ministre rwandais a réitéré les préoccupations sécuritaires de Kigali, longtemps ignorées ou écartées selon lui, l'interprétation erronée et biaisée de la crise, ainsi que les mesures unilatérales contre le Rwanda ne conduiront pas à une solution, affirme-t-il. Après de premières annonces, la question de fortes sanctions européennes reste en suspens depuis fin février et un veto déposé par le Luxembourg pour donner une chance au processus fusionné de négociations de Luanda et Nairobi. Lucie Mouillot, Kigali, RFI.
En Ouganda, le chef des forces armées, Muhoozi Kainerugaba, annonce ce matin l'envoi de forces spéciales au Soudan du Sud, plus précisément à Juba, officiellement pour sécuriser la capitale. fils du président Yoweri Museveni, Muhoozi Kainerugaba, affirme vouloir soutenir Salva Kiir alors que les tensions entre son dernier et son vice-président Riek Machar sont à nouveau au plus haut. Christina Okello, que sait-on de ce déploiement ougandais?
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Tout d'abord, ce n'est pas une mission de paix, mais une opération de sécurisation, insiste l'armée ougandaise. Les troupes envoyées il y a deux jours visent à stabiliser la capitale sud-soudanaise et à protéger les citoyens ougandais et étrangers sur place. Ce déploiement intervient alors que les tensions s'intensifient. Le gouvernement de Salva Kiir a interpellé deux ministres et plusieurs hauts responsables militaires proches de Riek Machar, suivi de nouveaux affrontements dans l'état de Haut-Nil. Une situation jugée alarmante par l'ONU qui craint un effondrement de l'accord de paix de 2018 conclu après 5 ans de guerre civile et près de 400 000 morts.
Mais sur quelle base ce déploiement a-t-il été décidé? S'agit-il d'une demande officielle de Juba ou une initiative unilatérale de Kampala?
Silence du porte-parole de l'armée, aucune information non plus sur le nombre de troupes déployées ni sur la durée de la mission. Kampala justifie son intervention en rappelant qu'elle est garante de l'accord de paix de 2018 et que cette opération suit le même schéma que les déploiements de 2013 et 2016. Mais une chose est claire, Nicolas, l'Ouganda affiche un soutien sans équivoque à Salva Kiir. Le général Muhoozi l'a dit sans détour. Toute action contre le président sud-soudanais sera considérée comme une déclaration de guerre.
Au Mozambique, le candidat malheureux à la présidentielle Venancio Mondlane, entendu ce matin par le procureur général. L'opposant est cité dans 8 dossiers ouverts par le ministère public et liés à la contestation des élections générales du 9 octobre dernier. Gaël Lalex, Venancio Mondlane s'est présenté ce matin au parquet et à l'heure.
Oui, c'est à pied qu'il s'est rendu ce matin au bureau du procureur général, accueilli sur place par quelques militants cernés par les forces de l'ordre. Cette audition était prévue hier, mais le parquet a accepté de la reporter à aujourd'hui à la demande de Venancio Mondlane qui était en déplacement au Botswana. Le candidat malheureux à la présidentielle qui revendique toujours sa victoire a bien à cœur de montrer qu'il ne fuit pas la justice. « Je suis confiant », a-t-il déclaré à l'entrée du ministère public, qu'il a une fois de plus qualifié de partial et partisan. Ce matin encore, Venancio Mondlane ne savait pas dans quel dossier il devait être entendu.
Alors il y en a plusieurs, hein, 8 en tout. De quoi Venancio Mondlane est-il suspecté?
Eh bien, la plupart des affaires concernent la destruction de biens publics lors de la contestation post-électorale. En novembre, le procureur général avait demandé à Venancio Mondlane et au parti Podemos une indemnisation de plus de 500 millions de dollars pour le préjudice causé à l'État mozambicain. En janvier, le ministère public a également lancé une procédure pénale. C'était après que Venancio Mondlane a publié ce qu'il avait baptisé son premier décret présidentiel, lequel légitimait notamment l'usage de la violence contre la police. Le procureur général l'a accuse donc de subversion et de trouble à l'ordre public. En tout cas, Nicolas, la perspective d'un dialogue politique entre Venancio Mondlane et le Frelimo au pouvoir semble s'éloigner de plus en plus. Le 5 mars, un accord pour un dialogue a été signé par le président Daniel Chapu et toutes les forces politiques présentes au Parlement. Venancio Mondlane, lui, n'a pas été convié.
Gaëlle Alex, correspondante régionale de RFI en ligne de Nairobi. Au Bénin, le procès des assassins présumés du syndicaliste et opposant urbain Daniveau, porté disparu en 2010, a repris devant le tribunal de première instance de Cotonou. Il y a 15 ans, un mois après sa disparition, la police avait exhumé au domicile d'un féticheur le corps d'un homme présenté comme le syndicaliste. La famille avait émis des doutes à l'époque. Deux personnes dont le féticheur ont été poursuivies. Jean-Luc Aplogan vous retrouve en direct de Cotonou. L'affaire a déjà connu 3 audiences, mais la dernière remonte à 7 ans, à 2018, pourquoi un temps aussi long?
Bonjour Nicolas, eh bien le procès reprend maintenant seulement parce que la famille du syndicaliste et ses avocats avaient réclamé des tests ADN contradictoires sur le corps exhumé et présenté comme étant celui de Urbain Daniveau. À l'époque, le gouvernement avait commis un laboratoire, les proches avaient émis, vous l'avez dit, des réserves sur ces résultats. Nous étions en 2018, la Covid est arrivée un an après, avec la lenteur des procédures administratives, les choses ont traîné. Le Bénin n'est pas équipé pour réaliser les tests ADN. Selon un communiqué du procureur, les actes d'instruction complémentaire ordonnés ont été accomplis et la procédure est en état de recevoir un jugement Fin de citation. En attendant confirmation, on peut donc déduire que la requête de la famille est donc satisfaite. Le féticheur principal accusé a déclaré à la barre ce matin « Je n'ai jamais tué d'animaux, j'avais avoué à l'époque être l'assassin parce qu'on m'a demandé de le faire contre promesse ». Fin de citation. Le procès est prévu pour durer 4 jours. On attend d'autres dépositions et les confrontations.
Jean-Luc Aplogan, correspondant de RFI à Cotonou. Au Sénégal, les députés doivent se prononcer en plénière aujourd'hui sur un projet de loi qui permettrait au président de ratifier une convention d'assistance et de transfert de détenus sénégalais au Maroc vers leur pays d'origine et vice-versa. Y a-t-il un lien avec les poursuites dont les nouvelles autorités menacent l'ancien président Macky Sall, aujourd'hui installé au Maroc ? Non, assure-t-on à Dakar, Léa Lisa Westerhoff.
Signée il y a plus de 20 ans, en décembre 2004, la convention entre le Maroc et le Sénégal n'avait jamais été ratifiée. Concrètement, cet accord doit permettre à une personne condamnée dans l'un des deux pays de purger sa peine dans son pays d'origine, tout en bénéficiant d'une aide consulaire et humanitaire. D'après le dossier de presse fourni par le bureau d'information du gouvernement pour l'occasion, 299 Sénégalais actuellement détenus au Maroc pour immigration clandestine, vente de drogue ou association de malfaiteurs entre autres, pourraient, grâce à cet accord, bénéficier d'un retour au Sénégal. 38 en auraient déjà fait la demande. Sur le papier, il n'y a aucun lien entre cette convention de transfèrement des détenus du Maroc vers le Sénégal et le cas de l'ex-président Macky Sall. Mais alors que le gouvernement promet qu'il fera face à la justice, le timing de la ratification de cette convention ancienne interroge. Pourrait-elle aider à extrader l'ancien président qui réside au Maroc s'il est un jour poursuivi ou condamné ? Rien à voir, ont répondu plusieurs membres du gouvernement. Selon l'Observatoire de la société civile, il s'agit plutôt d'un bluff politique, car extrader un ex-président est particulièrement compliqué. Léa Lisa Westerhoff, Dakar, RFI.
Il est midi 42 à Dakar.
Afrique Midi sur RFI.
Dans la deuxième partie d'Afrique Midi, la fin de la visite de Gérald Darmanin au Maroc. Le ministre français de la Justice est la 4e personnalité politique à faire le déplacement depuis 6 mois. Nous verrons aussi où en sont les efforts de développement d'une industrie vaccinale en Afrique, 5 ans après le début de la pandémie de Covid-19. Et l'espoir du football, le Sénégalais Aliou Cissé signe aujourd'hui comme sélectionneur de l'équipe libyenne. En plus bref, dans l'actualité africaine de ce mardi au Cameroun, une 20aine de personnes interpellées dans la localité de Mblada, dans l'arrondissement de Soulé-des-Roua, dans l'extrême nord. Elles sont accusées d'avoir participé à l'assassinat des chercheurs du Centre de Recherche Géologique et Minière de Garoua, Mounsi Frédéric et Bello Bienvenu, ainsi que leur guide, il y a 10 jours. Le ministre français de la Justice, Gérald Darmanin, a achevé hier une visite de 2 jours au Maroc. Le garde des Sceaux est la 4e personnalité française à se rendre dans le royaume depuis la visite d'État d'Emmanuel Macron au mois d'octobre. Les relations sont redevenues excellentes depuis que le chef d'État français a reconnu la souveraineté du Maroc sur le Sahara occidental, Stéphane Duguay.
Oui, la députée macroniste Éléonore Carrois voit dans ses déplacements de ministre un bon œil, l'œil qu'il y a un changement de contexte géopolitique et que c'est bien de le montrer, dit-elle. Référence donc, vous le disiez Nicolas, à la reconnaissance par la France de la souveraineté du Maroc au Sahara occidental. C'est justement là où la ministre de la Culture, Rachida Dati, s'est rendue fin février sans en informer le chef du gouvernement d'après le journal Le Monde. Elle avait alors revendiqué être la première des ministres français à poser le pied sur ce territoire disputé. L'Algérie avait vivement condamné ce déplacement. De quoi tendre encore un peu plus les relations avec la France. Chez les parlementaires, certains grincent des dents dans l'opposition. La députée écologiste Sabrina Sebaï trouve normal que les ministres aillent au Maroc, mais selon elle, aller au Sahara occidental, c'est envoyer un signal négatif en disant, je cite, « on ne veut plus travailler avec l'Algérie ». Même dans le camp présidentiel, un cadre reconnaît embarrassé que le Premier ministre ou le Président aurait dû être à minima prévenu de cette visite. En tout cas, les députés français de la Commission des Affaires étrangères veulent eux aussi aller au Maroc très prochainement. Ils devraient rencontrer les parlementaires marocains fin avril, début mai.
Il y a 5 ans, le 11 mars 2020, l'OMS déclarait que l'épidémie de Covid-19 était une pandémie. Une crise sanitaire commençait avec, entre autres, impact, la révélation de la très forte dépendance de l'Afrique en matière de vaccins. Le continent ne produit que 1% des doses dont il a besoin. L'Union africaine veut développer l'industrie locale. C'est dans cet objectif qu'un centre de transfert de la technologie des vaccins à ARN messager a été lancé en 2021 dans la ville du Cap, en Afrique du Sud. Où en est-on aujourd'hui? Élément de réponse avec Claire Bargelès.
Le centre a créé sa propre version du vaccin à ARN messager contre le Covid-19. Il n'a pas vocation à être commercialisé puisque la pandémie est passée. Il sert en fait de base d'apprentissage pour transmettre la technologie à d'autres pays. Mais pour le chercheur Patrick Arbuthnot, qui a travaillé sur le développement de ce hub, une fois que les connaissances sont acquises, il reste encore des obstacles.
Le gros problème, c'est d'arriver à se conformer aux exigences réglementaires. C'est une chose de développer un vaccin à ARN dans un laboratoire, mais c'en est une autre de créer un produit qui respecte les normes afin d'être utilisé sur des humains. C'est une étape plus compliquée.
Pour le continent, le Sénégal a déjà pu bénéficier du transfert de technologie. La Tunisie est actuellement formée et l'Égypte, le Kenya et le Nigeria devraient bientôt y avoir accès. Mais ensuite, la production doit être économiquement viable, comme l'explique Petro Terre Blanche. Elle est à la tête de l'entreprise Afrigène qui pilote le projet depuis le Cap.
Nous avons besoin que nos propres gouvernements mettent en place des politiques industrielles pour se fournir localement. Et nous avons aussi besoin d'instruments de financement mixte afin de développer un ensemble de vaccins. Même si certains présentent de faibles marges, ils sont essentiels pour bâtir les connaissances, les compétences et maintenir les installations.
Afrigène mène désormais des études pour de possibles vaccins contre la tuberculose ou encore la fièvre de la vallée du Rift. Mais l'arrêt des aides américaines pourrait avoir des conséquences sur les recherches autour d'un vaccin contre le VIH. Claire Bargelès, Johannesburg, RFI.
Et dans quelques minutes, le professeur Yap Bounde, qui fut chef de la réponse au Covid pour le Cameroun, est notre invité. Les sports du football, 5 mois après son limogeage de son poste de sélectionneur du Sénégal, Aliou Cissé devrait s'engager avec la Libye. Présent à Benghazi depuis dimanche, l'ancien coach des Lions devrait être présenté ce mardi et paraffer un contrat de 2 ans avec la qualification pour la CAN 2027 en objectif. Une nomination diversement appréciée au Sénégal. À Dakar, le reportage de Wahani Johnson Sambou.
La dernière apparition d'Aliou Cissé sur un banc de touche remonte au 9 septembre lors d'une victoire du Sénégal 1-0 au Burundi. Limogé le 2 octobre, voici l'ex-coach des Lions sur le point de s'engager avec la Libye. Une destination pour le moins surprenante pour beaucoup de Sénégalais à l'image d'Amadou Seck.
Vainqueur d'une Coupe d'Afrique, après vous allez prendre un pays comme la Libye. Je ne comprends pas vraiment le challenge. Peut-être c'est d'ordre pécuniaire, moi je le pense comme ça.
Malgré tout, les Sénégalais qui n'ont pas apprécié la manière avec laquelle Aliou Cissé a été limogé après 10 ans à la tête des Lions se réjouissent de la perspective de le voir reprendre du service. Beaucoup restent cependant dubitatifs sur les chances de réussite du technicien de 48 ans en Libye, eu égard à son passé glorieux avec le Sénégal.
Le temps qu'il a eu avec les Lions pour faire ce résultat, je ne pense pas qu'un autre pays le lui donnera. Mais on lui demandera au moins d'être présent dans les compétitions internationales.
La qualification à la CAN 2027 serait l'un des principaux objectifs assignés à Aliou Cissé. Il devrait débuter son aventure le 20 mars prochain contre l'Angola en éliminatoire de la Coupe du Monde 2026, où la Libye est deuxième de son groupe. Wahani Johnson Sambou, Dakar, RFI.
Il est 13h48 à Paris. Anne Kantner, les grands titres de ce mardi 11 mars.
4 personnes tuées lors d'une frappe israélienne dans la ville de Gaza. L'armée israélienne confirme ce tir, indiquant avoir visé plusieurs individus qui représenteraient une menace pour les troupes au sol. Elle a aussi tué 3 Palestiniens présentés comme des combattants lors d'une opération militaire à Jénine, dans le nord de la Cisjordanie occupée, et ce alors que des discussions sont en cours à Doha pour une poursuite d'une trêve à Gaza. Une attaque massive de drones ukrainiens contre la Russie à Moscou, où les autorités déplorent 3 morts et plusieurs blessés, et dans la région de Koursk, en partie occupée par l'armée ukrainienne depuis plus de 6 mois. Cette attaque survient alors que des délégations ukrainiennes et américaines discutent en ce moment à Jeddah, en Arabie Saoudite, d'un cessez-le-feu partiel avec la Russie. Et puis il y a du football à suivre aujourd'hui en Europe. Huitième de finale retour de la Ligue des Champions. Au programme notamment Liverpool-PSG, c'est à suivre en direct et en intégralité sur notre antenne à partir de 20h, temps universel. Autre match, Inter Milan face au Feyenoord Rotterdam, le Bayer Leverkusen face au Bayern Munich et puis le Barça contre le Benfica Lisbonne. Il y a 5 ans, le 11 mars 2020, l'Organisation mondiale de la santé qualifiait le Covid-19 de pandémie. Cette pandémie, elle a entraîné dans le monde entier des mesures de prévention spectaculaires, des confinements de population, des couvre-feux dans des contextes de pénurie de masques, de manque de médicaments et d'hôpitaux parfois saturés. Comment l'Afrique a-t-elle fait face à la pandémie? Le professeur Yap Boumdeu était chef de la réponse au Covid pour le Cameroun. Aujourd'hui, il est coordinateur adjoint pour la réponse au Mpox à l'Africa CDC, l'agence de santé de l'Union africaine. Et il est votre invité, Nicolas Sûr.
Bonjour, professeur Yap Boumdeu.
Bonjour, Nicolas.
Au final, est-ce qu'on sait aujourd'hui combien de personnes ont succombé au Covid-19 en Afrique?
Alors, est-ce qu'on sait véritablement en Afrique ou dans le monde? Probablement pas. Cependant, on a des chiffres. On a près de 8,6 millions de personnes qui ont été affectées par la COVID. Il y a près de 170 000 personnes qui en sont décédées. Mais ça, ce sont les chiffres qui ont été répertoriés. Quand on a fait ce qu'on appelle des enquêtes de séroprévalence, on s'est rendu compte que beaucoup plus, voire 4 fois plus en fonction des pays, avaient été exposés au virus de la COVID. Donc, il est difficile de pointer le chiffre exact, mais on a cette estimation des cas qui ont été reportés.
Alors, toutefois, l'Afrique a été souvent présentée à l'époque comme relativement épargnée par la pandémie par rapport à d'autres continents. Est-ce que ce serait exact?
Oui, relativement épargnée, mais c'est toujours important de prendre l'Afrique comme un continent et pas comme un pays, c'est-à-dire qu'il y a une hétérogénéité. Ce qu'on a vu en Ouganda, où il y a un nombre de cas, de décès beaucoup plus important que des pays comme le Niger, par exemple, parce qu'à un moment, on disait que c'était simplement lié à l'âge, lié à l'immunité. Mais on s'est rendu compte que, en fonction de la réponse, en fonction du pays, de l'environnement, de l'épidémiologie, les pays ont été affectés différemment. Mais de manière comparative aux États-Unis, à l'Occident, effectivement, le nombre de décès, surtout le nombre de forts sévères, était beaucoup plus faible que ce qu'on aurait attendu.
On a dit aussi qu'il existait dans plusieurs pays d'Afrique une expertise en matière de gestion des épidémies, de traçage de cas contacts notamment. Est-ce que pour vous, ça a pu jouer aussi?
Oui, c'est certainement la capacité de répondre aux épidémies qui est le quotidien de la majeure partie des pays africains. On va parler du palu, on va parler de la rougeole, on va parler d'Ebola pour certains. Donc cette habitude-là, cet entraînement a fait que certains pays étaient préparés ou alors plus adaptés à répondre à l'épidémie. Donc ça contribuait. Déjà, même dans les démarches, tous les pays n'ont pas eu le confinement. Le Cameroun, par exemple, et d'autres pays n'ont pas confiné. Ils ont plutôt investi dans la réponse avec des tests rapides massifs permettant de pouvoir adapter la réponse à l'environnement du pays, à la culture, mais également à l'impact qu'on voulait limiter dans certains pays. Donc, ça a permis à l'Afrique, son expérience lui a permis de pouvoir ajuster, voir ce qui pouvait marcher. Et au final, elle s'en est plutôt bien sortie.
La pandémie de Covid a mis en lumière la très forte dépendance du continent africain en matière de médicaments et de vaccins et le fait qu'elle ne produit que 1 à 2% des vaccins dont elle a besoin. Est-ce que c'est toujours le cas 5 ans plus tard? Est-ce que ça s'est amélioré ou pas?
Alors, je dirais c'est toujours le cas et je dirais ça s'est amélioré également, dans le sens où le pourcentage de vaccins produits en Afrique pour répondre à nos épidémies reste près de 2%, 3%. Mais par contre, les initiatives qui ont commencé pendant la COVID pour renforcer la production locale de vaccins, que ce soit au Sénégal, que ce soit au Rwanda, que ce soit au Maroc ou en Afrique du Sud encore, a évolué. Il y a des agences qui ont été créées, des consortiums qui ont été mis en place pour favoriser la production locale de vaccins, mais également de médicaments et aussi de tests diagnostiques. Donc, cette initiative va se poursuivre. Là, on est en plein Mpox et on est ravis de voir que des pays comme le Maroc, comme le Sénégal vont produire des tests rapides, des tests moléculaires pour répondre à cette épidémie. Donc, il y a un déclenchement pendant la Covid, qui se poursuit. Mais comme vous l'imaginez, ces initiatives prennent du temps et surtout demandent beaucoup de ressources qui ne sont pas forcément disponibles aujourd'hui.
Donc sur ce terrain-là, il y a eu une avancée, des leçons ont été tirées. Qu'est-ce qui, selon vous, doit aujourd'hui, par contre, être encore amélioré? Quelles leçons de cette épidémie de Covid n'ont pas été tirées?
Alors, qu'est-ce qui peut être amélioré? C'est le renforcement du leadership des pays africains qui se met en place à la dernière réunion du sommet de l'Union africaine. Il y a eu cet engagement dans la santé avec le directeur général d'Africa CDC, Jean Kaseya, le président Paul Kagame, pour pousser, accélérer l'agenda au niveau de la production locale de vaccins, de médicaments et de contre-mesures médicales. Donc ça, c'est quelque chose où on doit accélérer, mais également de mobiliser davantage de fonds endogènes avec ce qui se passe au niveau du nouveau leadership américain et l'impact que ça a eu sur le financement de la santé et les critiques qu'on puisse avoir davantage d'investissement des pays, des États membres, comme c'était prévu dans la déclaration d'Abuja, où 10% des PIB de chaque pays doit être investi dans la santé, mais également de pouvoir avoir davantage recours aux industriels, aux philanthropes africains qui doivent investir pour s'assurer qu'on puisse atteindre l'autonomie dont nous avons besoin.
Merci, professeur Yap Boum 2. Cet entretien sera retrouvé sur le www.rfi.fr et sur nos applications rubrique invité, onglet invité d'Afrique Midi. Toute la semaine, nos reportages en Guinée sur un méga-projet qui doit transformer le pays, celui de la mine de fer de Simandou. Il nécessite ce projet de construire de grandes infrastructures comme un chemin de fer, un port et de nombreuses bases-vie autour des gisements. Des travaux qui impactent les habitants, parfois contraints de quitter les lieux. Des compensations financières sont prévues, mais elles provoquent parfois des tensions et des divisions au sein des communautés. C'est ce qui s'est passé dans le village de Sunganya, où s'est rendu notre envoyé spécial, Alexis Bédu.
Vous voyez, il n'y a plus d'eau. Vous voyez, regardez.
Avant, vous aviez de l'eau.
Oui. On avait de l'eau, on avait une grande fleuve ici. Ils ont arraché tout.
Il a une vingtaine d'années et la rage en lui.
On n'a rien ici. On n'a pas de l'hôpital, des marchés, rien. Même de l'eau à boire. Les jeunes ne travaillent pas. Regardez-nous.
Son village est sur le tracé du chemin de fer en construction, tout près du port minéralier. Il en veut aux autorités et aux sociétés minières, car il a l'impression que le projet Simandou ne lui a rien apporté, ni emploi, ni sérénité. Et quand il passe à Conakry, la capitale...
Quand vous descendez là-bas, ils vont vous dire que vous êtes les boss, il y a un grand projet chez vous, il y a le grand port de la Guinée qui se trouve chez vous, vous êtes les boss. Mais les gens ne savent pas ce qui se passe ici.
Et ce qu'il se passe ici, à écouter les villageois, c'est un bouleversement total dans les communautés. Les compensations financières octroyées par les sociétés minières ont chamboulé la vie de certaines familles, explique ce villageois.
Quand il y a compensation, les sommes sont si faibles que ça crée des divisions dans les familles. C'est tellement peu qu'on a du mal à se partager l'argent. Là où nous sommes, la famille de cette maison a été confrontée à ce problème. Il y a eu un conflit entre les frères et certains ont dû partir.
Les entreprises ont l'obligation légale de compenser les propriétaires terrien impacté par le projet. Chaque entreprise déroule son propre mécanisme et ils sont très disparates. Mamoudou Youla est un habitant de Sunganya.
Ici, pour un domaine d'un hectare, les sociétés ont donné entre 35 et 40 millions de francs guinéens.
35 millions, 40 millions.
Soit environ 4 000 euros. Près de Farana, l'année dernière, les habitants de deux villages, Layasando et Layadoula, se sont violemment affrontés à plusieurs reprises à cause d'un différend lié aux compensations versées par Winning Consortium Simandou. Oumar Totiabari est directeur exécutif de l'Observatoire guinéen des mines et métaux.
Le long du corridor, on a assez de familles aujourd'hui qui se retrouvent devant les tribunaux déchirés pour la gestion de cette compensation. C'est des montants énormes qui se chiffrent parfois à des milliards de francs guinéens qui sont en jeu entre des familles et des personnes. Il y a ce manque de préparation des communautés mais aussi des instances de gouvernance locale parce que derrière, il n'y a pas un cadre réglementaire suffisamment robuste.
Alexis Bédu de retour de Sunganya, RFI.
Et c'est en Guinée que se referme cette demi-heure africaine réalisée et préparée avec Laurent Chaffard, Benoît Raymond et Pierre Vallée. Merci à eux et merci à vous de nous avoir suivis.
À demain, Nicolas Sûr. Restez avec nous sur RFI. On se retrouve dans une minute pour le rendez-vous d'Haïti et des Amériques. Si vous êtes en Afrique de l'Ouest, vous le savez, vous pouvez écouter une demi-heure d'informations en full day.
Priorité santé.
Caroline Paré vous invite à poser vos questions sur les thèmes de cette semaine. Demain.
Dépression, exaltation, comment le trouble bipolaire agit-il sur l'humeur?
Jeudi.
La sexologue de l'émission Noël Kayarsi vous répond en direct.
Contactez-nous sur WhatsApp au 33 7 61 18 46 41 ou à priorité.santé@rfi.fr.
Priorité santé avec Sono Assurance.
Du lundi au vendredi à partir de 9h10 TU sur RFI.
Afroclub, le hit des platines avec DJ Facemaker.
Je vous retrouve deux fois par semaine, le mardi et le jeudi, dans l'Afroclub, terrain incontournable des musiques afro-urbaines d'Afrique et de ses diasporas. Deux fois plus de groove, une séquence rétro indispensable et en prime, une vidéo des tendances de la semaine à voir sur RFI Musique et tous nos réseaux sociaux.
Afroclub, le hit des platines avec DJ Facemaker. Tous les mardis et jeudis dans Afrique Soir.